Chers frères et sœurs, on croit qu'on connaît les gens, mais finalement, on ne les connaît pas toujours très bien. Savez-vous que dans ma famille, il y a un sport qui est roi? C'est le golf. Alors aujourd'hui, autant vous dire que les cannes sont réparties dans différents endroits et que j'en joue plus. Ça va un peu de soi. De temps en temps, il y a des copains qui me proposent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, comme tout fan d'un sport, on connaît les grands maîtres de ce sport. Et le grand maître de ce sport est un vieil homme, maintenant il est mort, il s'appelle Jack Nicklaus. C'est pas Tiger Woods le plus grand pour l'instant, c'est Jack Nicklaus. Et Jack Nicklaus, un homme qui a gagné une multitude de tournois, un homme qui était adulé par tous les fans de golf, avait un principe, c'est que chaque année, au début de la saison, il allait voir son vieux maître. Il arrivait chez son vieux maître et il lui disait « Jack, il s'appelle Jack Gould, Jack, revoyons les bases. » Et il s'entraînait, il commençait à se réentraîner à propos des premiers gestes, avec les premiers gestes, comme il avait fait quand il était petit enfant. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va regarder les bases. Pendant ce carême, c'est bon de revenir à l'essentiel, vous voyez, c'est revenir... Bien sûr, il y a des choses que je vais dire et que vous savez par cœur, mais c'est bon de les réentendre. C'est même très bon de les réentendre. La première chose que nous enseigne cette première lecture, c'est que nous sommes hybrides. Ça, c'est un mot qui est à la mode. Nous sommes hybrides. C'est-à-dire que nous sommes à la fois des animaux... On a des fonctions animales et on est spirituel parce que Dieu a soufflé en nous sa néfèche de vie, son souffle de vie divine. Nous sommes animés, nous avons une âme parce que Dieu a soufflé dans le cœur de nos parents son souffle divin. Et sans ça, je serais incapable de vous parler. Vous pouvez mettre tous les tigres à ma place, tous les éléphants, tous les animaux de la terre. S'ils ne sont pas animés, s'ils n'ont pas une âme, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas rire, ils ne peuvent pas avoir une forme de réflexion qui amène au progrès, etc., etc., etc. Bref. Tout va bien, tout irait bien, s'il n'y avait pas une chose qui nous divise profondément, qui divise cette vie spirituelle en nous, et cette vie animale, vous avez compris où je voulais en venir, c'est le péché. Alors, qu'est-ce que c'est que le péché? Les paroissiens de Notre-Dame des Victoires le savent par cœur. Je sais, vous vous confessez tous chaque mois, je sais. Enfin presque. Le péché, si vous le voulez bien... Nous allons, avec notre cher organiste Luc Stelakis, vous montrer ce que c'est. Au début de la création, Dieu a mis l'homme et la femme dans un jardin et lui a dit « Profites-en, tu peux prendre de tout ce qu'il y a autour de toi, tu peux prendre de tous les arbres du jardin, de tous tu peux les prendre ». C'est un peu comme si on jouait un morceau de musique connu de tous à l'orgue et on peut entrer dans cette jubilation d'entendre les premières notes de ce morceau. Vas-y Luc. Et on peut tous chanter la suite. Jean-Sébastien Bach, merci. Bach. Maintenant, ça c'est le jardin d'Éden. Tout est en ordre. Tout est unifié. Les notes vont les unes avec les autres. Le maître Jean-Sébastien Bach a servi la beauté, a servi la vérité, a rajouté son talent, a existé au milieu de la musique et a créé ça. Et puis, arrive le péché. Que fait le péché ? Le péché, c'est une volonté qu'a l'homme de casser ce qui existe. Ou plus exactement, c'est comme si, au lieu de jouer et de célébrer la beauté et la vérité, vous choisissiez volontairement de faire autre chose, de faire votre propre affaire. Un peu comme si vous commenciez par jouer les premières notes de Bach, et puis ensuite, je me prends pour Bach. Et ça donne ça. Chers frères et sœurs, c'est ce qu'on fait tous. Vous voyez, le péché, ce n'est pas d'abord une histoire de morale. Très, très fondamentalement, le péché, c'est casser, c'est ne plus profiter de tous les arbres du jardin. C'est quand même extraordinaire d'écouter cette toccata de Bach, d'en profiter. Le bon Dieu, il veut qu'on profite des choses. À condition de se rappeler toujours qu'il est le Créateur et que je suis la créature. Est-ce qu'il y a des choses dans notre existence qui nous montrent que parfois nous suivons le démon comme Ève, nous reproduisons ce que Ève a fait avec plus de précision que simplement saboter un morceau de musique? Il y a deux auteurs qui ont eu des slogans, deux philosophes qui ont eu des slogans qui pour moi ont cassé des générations et des générations et qui revient à peu près à la même chose que de casser un morceau de Jean-Sébastien Bach. Nietzsche. Dieu est mort. Virgule. Faites comme vous voulez. Elle est terrible cette phrase. Parce que la moitié de la phrase est vraie et l'autre moitié est faux. Dieu n'est pas mort, mais faites comme vous voulez. Ça, c'est ce que disait Dieu à l'homme et à la femme. Profitez de tout ce que vous avez autour de vous. Quand Friedrich Nietzsche dit ça, il fait l'œuvre du démon, il fait de l'œuvre de Satan. Ça ne veut pas dire que toute la philosophie de Nietzsche est à mettre à la poubelle, mais ça veut dire que quand il dit « Dieu est mort, faites ce que vous voulez », sous-entendu « Soyez le propre chef de votre propre volonté », oubliez que vous avez un père qui peut vous aider, qui vous a donné la vie. Réfugiez-vous dans votre propre intelligence, dans votre propre sensibilité, dans votre propre émotivité. Et alors, la division entrera en vous profondément. Il y en a un autre philosophe qui a fait plus ou moins la même chose, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre a souligné une autre subtilité. Je détermine, dit Sartre, ce que je serai. L'homme est capable de déterminer ce qu'il sera. Quand j'entends cette phrase, que j'ai 18 ans, que je ne suis pas formé, il y a un souffle d'enthousiasme qui vient. Je peux donc décider ce que je vais devenir. Je peux donc décider ce que je vais devenir. Vous sentez? C'est un mensonge. Tout le monde le sait très bien. Nous sommes toujours les enfants de Dieu. Nous sommes toujours aimés par Dieu. Nous avons tous des qualités et des défauts. mais on a besoin de Dieu pour devenir ce qu'on est vraiment en profondeur. On a besoin que notre Père du ciel achève en nous ce qu'il a commencé avec notre conception. C'est Dieu qui est l'auteur de la vie. C'est Dieu qui assume la responsabilité de la vie en nous. C'est pas nous, c'est pas l'homme. L'homme, il répond à cette possibilité. Et il est en accord avec Dieu ou pas? Si l'homme répond à ses possibilités, si l'homme répond à ce que Dieu a mis en lui, ça donne Jean-Sébastien Bach. Mais si je me réfugie dans ce que je veux, dans ce que je pense, dans ce que je sens, si je suis ma propre référence, ça donne des catastrophes. Il y a un autre slogan, un troisième slogan, celui-là qu'on a tous entendu à la télévision. C'est un slogan qui datait qui a une dizaine d'années à peu près, je pense. Vous vous souvenez certainement de cette émission « C'est mon choix ». Alors là, vous aviez une journaliste qui a interviewé des gens qui avaient fait des choix particuliers. « C'est mon choix ». « Je me jette de l'immeuble, c'est mon choix ». Voilà, je fais n'importe quoi, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les horreurs du monde. C'est valable parce que c'est mon choix. Et vous voyez, ça exerce toujours la même fascination. C'est mon choix, j'ai envie de choisir. Oui, tu peux prendre de tous les arbres du jardin, mais tu ne peux pas prendre celui qui est au milieu, parce que si tu prends celui qui est au milieu, tu vas devenir une sorte de petit dieu minable qui n'est même pas capable de reproduire la toccata de Jean-Sébastien Bach. Il a raison, Satan, quand il dit « Vous serez comme des dieux ». Bien sûr, il oublie de rajouter « minable », « stupide », « débile ». Pas plus intelligent qu'un enfant de 5 ans, et encore à Notre-Dame des Victoires, ils sont très intelligents. Mais on voit bien, on voit très très bien, ouvrez la télé et écoutez ce qui se passe. Vous allez très vite comprendre qu'il y en a qui fonctionnent vraiment que comme ça. La conséquence, c'est que les Adam et Ève se retrouvent nus. Alors bien sûr, il y a toujours eu des gens pour dire « mais c'est pas mal d'être nus. Baladons-nous nus sur les plages et ailleurs. Mais 68, interdit d'interdire, et on se balade dans la Sorbonne à poil. » Sauf que ça ne veut pas du tout dire ça. Quand Adam et Ève sont nus, le terme exact en hébreu, c'est faible. Tout d'un coup, quand tu as péché, tu es faible. Tout d'un coup, quand tu as péché, tu revêts une espèce de fragilité qui fait que tu entres dans la honte. La honte d'exister. Et même tu te demandes pourquoi tu vis. Parce qu'il n'y a plus de souffle, parce que le souffle de la vie divine en toi passe plus, a du mal à passer, a du mal à se répandre partout dans ton être. Tu te replies sur toi et surtout, tu n'acceptes plus ta faiblesse. Alors tu essayes de t'habiller avec des feuilles de vigne. J'en ai déjà parlé ici, des feuilles de vigne. Impossible de s'habiller avec des feuilles de vigne. C'est stupide, feuilles de vigne. Il va falloir que Dieu leur apporte un autre habit. Il va falloir que Dieu les habille. Il va falloir que la relation entre Adam et Ève et Dieu, petit à petit, se rétablisse. Chers frères et sœurs, pendant ce carême, ce que Dieu veut faire, c'est nous habiller. Dieu veut nous rhabiller. Dieu veut nous rhabiller des vêtements de noces, des vêtements de l'amour. Dieu, pendant ce carême, il veut nous réapprendre à profiter de tous les arbres du jardin. Il veut nous apprendre à retrouver ce pourquoi nous existons. Il veut nous apprendre à retrouver le sens de notre existence. Dieu, pendant le carême, nous donne la grâce de nous détacher de nous-mêmes pour d'abord écouter la toccata jusqu'au bout. Ensuite, peut-être, pour les plus talentueux d'entre nous, l'apprendre humblement et finalement la jouer et s'en réjouir et puis rendre heureux les autres. C'est ça le destin des chrétiens. Alors vous voyez que ce carême, bien sûr, demande des réponses qui vont être le jeûne, l'aumône, la prière. Mais heureusement, Jésus, au désert, a été tenté, et en étant tenté au désert, et en traversant les trois grandes tentations du désert, et je ne vais pas vous les expliquer maintenant parce que c'est un autre sermon, eh bien, en traversant ces tentations et en étant vainqueur, Jésus nous donne la victoire sur les tentations. Puisque nous faisons partie du même corps, et que ce corps, c'est le corps du Christ, si le Christ a été vainqueur des tentations, nous aussi, nous pouvons être vainqueurs des tentations. Nous aussi, nous avons en nous ce qui est la force nécessaire pour vaincre ces tentations. Alors demandons à la Sainte Vierge. Une chose toute simple, c'est que quand nous péchons, cherchons Dieu. Ne faisons pas comme Adam et Ève qui se cachaient. À peine avons-nous péché, précipitons-nous vers Dieu. Fonçons au confessionnal. Et si on ne peut pas se confesser, allons tout simplement se mettre en prière en disant « Seigneur, je suis désolé, je le regrette, je suis ton enfant. Je suis ton enfant bien-aimé et tu trouves en moi ta joie. » Amen.